Et oui, vous êtes surpris, hein. C'est une exposition au Muséum de Toulouse qui a titillé ma curiosité, intitulée « Magie, sorcellerie » au pluriel. L'exposition, dont l'ouverture, on le comprend, est finalement repoussée pour cause de Covid, présente Hildegarde de Bingen comme l'une des quatre sorcières emblématiques, aux côtés de la déesse grecque Circé, la légendaire Fée Morgane ou encore Miché Chaudron, qui elle a bien existé. Alors comment celle qui fut déclarée docteur de l'Église a-t-elle pu se retrouver là ? Un détour par l'histoire de sa vie s'imposait. Bonjour Père François Marxer.
Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes professeur de spiritualité au Centre Sèvres à Paris, auteur de « Au péril de la nuit » qui fait le portrait des femmes mystiques du XXe siècle aux éditions du Cerf. Vous allez nous aider ce matin à entrer dans la connaissance de cette religieuse bénédictine. Elle est loin de nous par les années, par la situation géographique. Encore que, m'avez-vous dit, hein, elle a rejoint notre histoire à nous qui sommes dans le sud-est de la France, et vous allez nous dire comment pour commencer.
Tout d'abord parce que donc Hildegarde vit au XIIe siècle, elle est contemporaine de Saint Bernard, et elle est sans doute la première qui a repéré et qui a combattu avec véhémence, avec persévérance, le catharisme qui commençait à se développer dans la vallée du Rhin. Et je pense que l'hérésie cathare, je prends les termes officiels, a eu quelques retombées, n'est-ce pas, dans vos régions languedociennes, provençales, et celles du sud en général. Donc, elle-même a bien senti le danger que ça représentait pour la société de son temps.
Et comment l'a-t-elle combattu, le catharisme ?
D'une façon très, je vais dire, évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, encore moins de radio. C'est-à-dire, ce qu'elle a fait, elle a été en quelque sorte validée par les meilleures autorités épiscopales et même papales de son temps. Il y a eu une réunion à Trèves où Saint Bernard a plaidé sa cause devant le pape Eugène III, et Eugène III a recommandé la lecture et la diffusion du traité qu'elle avait publié à un certain Silvia, ce qui veut dire « connais les voies », une sorte de, si vous voulez, de manuel de conduite chrétienne dans la vie de tous les jours. Et alors, je vais dire que à partir de là, les évêques ont prêté attention à cette abbesse bénédictine et l'ont invitée à prêcher dans leur cathédrale respective. Alors évidemment, quand vous pensez qu'elle a eu ses premières visions à 43 ans et qu'elle est morte à 80 ans passés, je vais dire que c'est sur la deuxième moitié de sa vie qu'elle a eu toute cette activité, pourrait-on dire, pastorale, en essayant de convaincre ses contemporains, justement, des méfaits de ce catharisme si séduisant.
Alors, on va y venir à ces visions. Avant ça, tout de même, je parlais de cette exposition au Muséum de Toulouse, « Magie, sorcellerie ». Père François Marxer, voir ainsi Hildegarde de Bingen figurer au milieu des sorcières que j'ai citées, ça vous inspire quoi ?
Un peu une réticence profonde, je l'avoue, parce que il faut s'entendre sur les mots. Si vous entendez par sorcière la qualification de ces personnes un peu marginales dans une société qui sont censées, je ne dis pas qu'elles le font, qui sont censées pactiser avec les forces occultes pour construire une sorte de contre-société ou miner les structures de la société vivante, je ne vois pas en quoi une abbesse bénédictine, même si elle a une très bonne connaissance des sciences de la nature, de son temps, c'est-à-dire une science d'observation et en même temps une science pratique, hein, ce qu'on appelle les simples, c'est-à-dire les herbes, etc., ce qui lui permet de composer une pharmacopée tout à fait efficace, toute cette connaissance paysanne, il faut le dire, rurale, elle la possède, elle la diffuse grâce à ses écrits. Est-ce qu'il faut la considérer comme sorcière? Si elle avait été une sorcière, je vous le dis tout de suite, elle aurait terminé sur le bûcher. À l'époque, on ne faisait pas du quartier avec ce genre de qualification.
Donc, c'était pas un qualificatif dont on l'affublait au XIIe siècle.
Ah, certainement pas. Oh, non, c'était sa sainteté, je veux dire, était reconnue par tous, non seulement, je vous l'ai dit, par le pape et les évêques, mais par la mentalité populaire. Hildegarde, d'ailleurs, avait à son actif un certain nombre de miracles, alors donc, évidemment, ça ne peut que faire croître son prestige. Voilà, non.
Alors on va la découvrir davantage, si vous voulez bien, frère François Marcer. On l'a compris, une femme d'influence, une femme de caractère. Vous l'avez dit aussi, elle a fondé deux monastères. Elle a eu tout de même une vie assez extraordinaire, cette sainte assez méconnue de nous, puisqu'elle est effectivement assez éloignée dans le temps. Elle a été confiée à 12 ans à un monastère. C'est là qu'elle va y grandir jusqu'à en devenir la mère abbesse. Et c'est là aussi qu'elle aura ses fameuses visions. Elles prennent quelle forme, ces visions?
Alors, ces visions, si vous voulez, c'est... Bon, elle en avait très tôt, hein, c'est-à-dire que dès l'âge de 3 ans, elle était réputée avoir des activités visionnaires. Mais enfin, ça n'avait pas plus étonné que ça son milieu familial. Mais là, quand elle se retrouve donc dans ce monastère de Lisibodenberg, dont elle devient la mère abbesse, donc elle a été choisie, élue par ses sœurs, à l'âge de 43 ans. Mais c'est une véritable tempête qui dévastatrice, littéralement, hein, qui s'empare d'elle, donc dans un état quasi extatique. Et là donc, cette vision du monde à venir, hein, c'est toujours, ce sont des visions d'espérance, il faut le dire tout de suite. Alors, appuyée sur le livre de l'Apocalypse, bien entendu, je dis bien entendu parce qu'à l'époque, évidemment, c'était la référence, je vais dire quasi cryptée, qu'il fallait pouvoir en quelque sorte déchiffrer pour savoir ce que serait l'avenir. Alors, ces visions, elle les a, non pas dans une sorte de solitude confinée. Il y a toujours auprès d'elle, d'ailleurs comme l'illustre une miniature d'un manuscrit qui se trouve dans la bibliothèque italienne de Lucque, en Italie donc, il y a une moniale, Richardis von Stade, qui était sans doute sa préférée dans la communauté qu'elle avait fondée. Et puis, il y a non loin de là, mais alors de l'autre côté d'une sorte de muraille, Volmar, qui était son confesseur. Et Volmar, c'est lui qui va retranscrire ce qu'il entend des lèvres de Hildegarde, qui décrit ce qu'elle voit lui arriver, pourrait-on dire, de sa source céleste. Vous voyez d'ailleurs sur la fameuse miniature une fenêtre, qui s'ouvre et puis un flot, écarlate, flamboyant qui descend sur Hildegarde, les yeux ouverts. Et là, les yeux ouverts. Hein, donc, ce n'est pas du tout un état cataleptique qui s'empare d'elle. Et elle dit ce qu'elle voit et le moine, Volmar, va transcrire ce qu'il entend et le mettre de manière lisible, ce qui n'était jusque-là qu'audible.
Et donc, ça va donner lieu à trois gros ouvrages, hein, richement illustrés, vous l'avez dit, c'est le fameux Scivias et puis deux autres ouvrages. Elles disent quoi? Vous nous parlez d'espérance, on voit ce flux, ce flot qui tombe du ciel. Elles disent quoi, ces visions? Sur quoi elles portent exactement?
Ben, exactement, si vous voulez, c'est le monde... Alors, évidemment, elle ne se fait pas d'illusions. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, pas plus à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc, là, il y a un combat spirituel à mener contre les forces, du mal. Hein, les forces, alors, on va pas dire diaboliques, parce que tout de suite, les partisans de la sorcellerie vont se réveiller. Mais, si vous voulez, les forces mauvaises, maléfiques, existent dans le monde et il faut pouvoir les combattre. Alors, là, elles ont des visages très concrets. Hein. À son époque, il y a des leaders politiques qui sont stigmatisés comme tels par Hildegarde, surtout dans sa correspondante. Il y a un pape, un certain pape Eugène IV, qui est obligé de subir un mauvais quart d'heure parce qu'elle le trouve un peu tiède, un peu efféminé. Voilà, c'est en quelque sorte pour un homme qui n'a pas le courage de ses décisions, c'est absolument insupportable à ses yeux.
Et père, il faut dire aussi qu'on est à la charnière de l'an 1000 et les fidèles attendent le retour du Christ à ce moment-là.
C'est ça, de rappeler. Je veux dire que là, il y a eu cette grande espérance. Il n'y a pas du tout de terreur de l'an 1000. Ça, c'est une invention des historiens du 19e siècle, un peu romantique. Non, il y a eu vraiment une ferveur, une attente du retour du Christ. Hein, d'après la prévision de l'Apocalypse, mais au bout de 1000 ans, alors à ce moment-là, 1000 ans, bon, en 1000, il ne se passe rien. En 1033, tu sais, non, il ne se passe rien non plus. Et donc, il y a un grand abattement, si vous voulez, un découragement, pourrait-on dire, de la ferveur chrétienne. Et alors, Saint Bernard, lui, donc le contemporain, va réagir en proposant, ce qu'il appelle le Medius Adventus, comme on est dans le temps de l'Avent, c'est le moment d'en parler. C'est-à-dire que le premier avènement du Christ, c'est dans la pauvreté à Bethléem. Le second avènement, ce sera dans la gloire au moment du jugement dernier. Et entre-temps, il y a l'avènement mystique du Christ dans l'âme du fidèle, la naissance du Christ en toi. Alors, c'est là un thème qui sera repris au XIIIe siècle par les Rénoflamands, Maître Eckhart et les autres. Donc, voyez, alors, c'est pas tout à fait le point de vue d'Hildegarde. Hildegarde, elle va montrer le monde à venir, la perfection harmonieuse de ce monde futur. Et en particulier, il y a une sorte de géométrisation du monde, telle qu'on la voit dans les fameuses, je vous ai dit, miniatures de ce manuscrit de Luc, que vous pouvez d'ailleurs avoir sous les yeux si vous achetez le petit ouvrage de Marianne Vanier, consacré à Hildegarde de Bingen chez Albin Michel. Il y a un portfolio remarquable où vous avez l'ensemble de ces chefs-d'œuvre, faut le dire, de l'art médiéval.
Sacrée figure tout de même que c'est, sacrée visionnaire, hein, sans faire de jeu de mots sur ses visions, visionnaire dans le sens en avance sur son temps tout de même, d'Hildegarde de Bingen. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient, Père, que nous parlons de cette sainte d'origine allemande, et on en parle parce qu'une exposition au Muséum de Toulouse a titillé un petit peu notre curiosité, puisque Hildegarde de Bingen figure au rang des magiciennes de l'exposition. On essaye de la réhabiliter ensemble ce matin. Et alors, Père François Marxer, comment évoquer Hildegarde de Bingen sans parler justement de ce que vous nous avez dit au début, hein, son rapport aux plantes, son rapport aux minéraux. Elle a été faite docteur de l'Église, rien à voir, mais elle était un peu médecin tout de même, Hildegarde.
Pardon, elle était un peu, j'ai pas compris votre...
Un peu médecin.
Ah oui, non mais tout à fait. Là, elle avait le pharmacien et médecin, quoi. C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'elle avait quand même une communauté assez très importante dont elle devait s'occuper, et pas simplement au spirituel, au matériel aussi. Hein. Et elle tenait à ce que la santé des unes et des autres soit parfaite, de manière à ce qu'elle soit, je veux dire, en forme pour chanter l'office. C'était leur activité fondamentale, je veux dire, assurer musicalement l'harmonie du monde. Et d'ailleurs, on le voit parce que il y a eu un moment, elle a eu un conflit avec les chanoines de Mayence à propos d'une affaire funéraire. Et là, l'interdit a été jeté sur le couvent, c'est-à-dire impossibilité de célébrer les sacrements, ce qui est grave. Parce que, en particulier, si vous êtes à l'article de la mort, vous n'avez pas l'absolution pour passer, j'allais dire, en bonne et due forme de l'autre côté. Et là, notre Hildegarde, elle a dit, nous cessons de chanter l'office. Donc, il y a une rupture, pourrait-on dire, de l'harmonie du monde, et elle le montre là d'une manière symbolique. Mais je veux dire, c'est une manière aussi pratique. Et tout ce qu'elle connaît de cette science des simples, des herbes, des minéraux, de leurs vertus, de leurs capacités thérapeutiques, ça rentre justement dans sa vision générale d'un cosmos. Vous savez, le mot cosmos désigne l'harmonie d'un monde qui est beau, la beauté du monde. Et c'est en quelque sorte ce que défend absolument Hildegarde contre les cathares, hein, qui dédaignent le monde et le condamnent. Voilà, donc c'est là où...
Mais ça peut faire penser un peu à l'ésotérisme tout de même.
Ah, alors évidemment, nous on est très friands d'ésotérisme aujourd'hui, si vous voulez. Oui et non, parce que en fait elle déchiffre l'apocalypse. C'est-à-dire qu'elle rend exotérique, donc l'inverse, hein, elle rend, digne de compréhension, ces textes qui sont des textes, comme je vous l'ai dit au début, cryptés. Donc, ésotérique, pour nous, oui, ça l'est, ça je le reconnais. Si vous voulez, tout ce qu'elle peut avoir sur les merveilles de la nature, sur les plantes, etc. Mais pour les gens de son temps, non, ça faisait partie des connaissances les plus ordinaires. Alors, peut-être pas partagé par tous, il y avait peut-être dans un village quelques femmes qui étaient spécialisées dans la connaissance des plantes, hein, des champignons, donc je veux bien, mais si vous voulez, l'ésotérisme, c'est pas du tout, non, au contraire, autrement elle n'aura pas été docteur de l'Église, entre nous soit dit. Hein.
Et oui, sacrée femme tout de même que cette Hildegarde, Père François Marxer. Finalement, alors je vais vous faire bondir, elle n'a rien à envier aux féministes d'aujourd'hui, cette Hildegarde de Bingen.
Ah ben non, j'allais dire, enfin, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais si vous voulez parler de féminisme serait tout à fait justifié dans son cas. Parce qu'il faut voir comment elle a pris son... Alors, évidemment, elle est dans une position sociale tout à fait favorable. Elle est de petite noblesse, elle a ses entrées dans les palais royaux, impériaux, etc. Elle a, je vais dire, la faveur des papes, etc. Bon, tout le monde n'a pas ses avantages. Mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'elle prend son indépendance par rapport au monastère bénédictin, là, auprès duquel elle avait vécu dans un premier temps, là au Disibonenberg, pour fonder son propre monastère, et de manière tout à fait indépendante, en prenant la propriété du terrain de manière à être économiquement, je veux dire, autonome par rapport à tous les, je veux dire, ceux qui avaient quelque envie de mettre la main sur ce pactole monastique, en quelque sorte. Donc non, elle est d'une énergie, si vous voulez. Et d'ailleurs, elle reconnaît que entre la femme et le Christ, il y a quand même une certaine, plus qu'une analogie, si vous voulez. Ah. Elle a une théologie féminine tout à fait intéressante. Je vais dire que il vaudrait la peine d'être redécouverte.
Eh bien, on verra ça une autre fois. Merci beaucoup, frère Père François Marxer, pour cette découverte que vous nous avez permise de faire d'Hildegard de Bingen, et ceci donc à l'occasion de cette exposition au Muséum de Toulouse, qu'il faudra encore patienter pour aller la voir. Magie, sorcellerie, vous saurez un peu mieux où vous mettrez les pieds quant à Hildegard de Bingen. Merci à vous, Père.
Merci à vous, Isabelle. Merci à tous.